Bonsoir et bienvenue sur Agora Côte d'Azur dans Parlons des droits humains, une émission proposée et animée par Martine Monti
et Renaud Broukis,
et avec à la réalisation Nancy Zautier. Ce soir, nous allons aborder le thème de la précarité alimentaire dans le pays de Grâce. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'article 25, il est écrit que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation. Pourtant, aujourd'hui, dans le monde, une personne sur 10 souffre de la faim et une personne sur 3 ne peut se nourrir correctement. En France, plus de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit environ 15% de la population française. Et pour la grande majorité d'entre elles, la demande alimentaire vient en première position. Une situation qui, dans la France de 2025, paraît difficilement imaginable, mais qui est une réalité criante et contre laquelle la société doit être mobilisée. Dans l'article 226 du Code d'action sociale et des familles, il est écrit que la lutte contre la précarité alimentaire vise à favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Elle s'inscrit dans le respect du principe de dignité des personnes. Elle participe à la reconnaissance et au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement. En France, l'État, les collectivités locales et de nombreuses associations se mobilisent pour venir en aide aux personnes qui souffrent de malnutrition et pour enrayer les mécanismes qui conduisent à la précarité alimentaire. En 2014, l'État a lancé les projets alimentaires territoriaux, les PAT, qui ont pour objectif de relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les territoires et notamment de réduire la précarité alimentaire pour les personnes qui en souffrent. Les PAT sont élaborés de manière collective à l'initiative des acteurs d'un territoire, que ce soit les collectivités, les entreprises agricoles, agroalimentaires, les artisans, les citoyens, etc. Aussi, ce soir, avec Eva Parus et Sandra Troupna, responsables du projet alimentaire territorial du Pays de Grâce, nous allons essayer de comprendre ce qu'est la précarité alimentaire aujourd'hui en France, quels en sont les enjeux, et voir ce qui est mis en œuvre particulièrement dans le Pays de Grâce pour la combattre. Mais auparavant, nous prenons le temps d'une pause musicale en écoutant Expression alimentaire par Les Enfants Fantastiques.
Aborder le thème de l'alimentation saine et durable lors de notre dernière émission. Et nous avons souhaité poursuivre l'analyse de ce thème en évoquant la précarité alimentaire et plus spécifiquement en Pays de Grâce. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Sandra Troupna. Bonjour.
Bonjour.
Donc chef du projet alimentaire territorial de la communauté d'agglomération de Pays de Grasse, et on reviendra sur ces termes. Et bonjour Eva Parus.
Bonjour.
Chargée de mission pour la lutte contre la précarité dans cette communauté. Donc d'abord, on va vous demander un peu de vous présenter. Comment en êtes-vous arrivé là? Vos missions, vos motivations? Sandra?
Allez. Donc Sandra Troupena, je m'occupe du projet alimentaire territorial depuis 2022, où je suis arrivée donc à la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Et moi, j'ai un parcours plutôt globalement dans la transition écologique et l'accompagnement des territoires dans la transition écologique. Appliqué à différents sujets. Et donc, dernièrement, c'est l'alimentation sur lequel j'applique cette spécialité. Et donc, la motivation à venir sur le PAT, c'est finalement ce dispositif des projets alimentaires territoriaux qui est très intéressant. On y reviendra certainement, mais qui permet vraiment de co-construire une politique alimentaire avec tous les acteurs sur le territoire et d'essayer d'augmenter notre résilience et notre souveraineté alimentaire.
Alors justement, avant de passer à Eva, le projet d'alimentaire territorial, brièvement, parce qu'on en reparlera après, mais on va souvent parler de PAT ou de projet alimentaire et territorial, qu'est-ce que c'est?
Donc un projet alimentaire territorial, c'est un dispositif qui n'est pas obligatoire, ce sont les collectivités territoriales qui peuvent le porter si elles le souhaitent, donc c'est une volonté politique. Et donc nous, Jérôme Viau, le président de la communauté d'agglomération et les élus des 23 communes, ont souhaité s'engager dans un projet alimentaire territorial. L'idée, c'est de mettre tout le monde autour de la table, vraiment de la graine à la fourchette. Donc les agriculteurs, les citoyens, les associations, les entreprises, toutes les personnes qui sont concernées par le système alimentaire territorial local. Et de voir en fait quelles sont les choses qui fonctionnent bien sur l'alimentation sur le territoire et les choses qui fonctionnent moins bien, et de voir comment on peut trouver des solutions à ces choses qui fonctionnent moins bien. Donc, on peut donner juste un chiffre. Par exemple, à l'échelle des Alpes-Maritimes, on produit 1% de notre alimentation, ce qui est très peu. Donc on est un des territoires les moins résilients de ce point de vue-là, mais on a d'autres richesses, comme l'alimentation méditerranéenne, et donc on va travailler sur tous ces sujets.
D'accord, merci de ces éclairages. Donc Eva, votre parcours, donc vu que vous êtes plus sur le terrain.
Oui, alors du coup, moi j'ai récemment fini mes études. Je suis arrivée sur le PAT du Pays de Grasse en juillet 2024. Et avant ça, donc, je venais de terminer un premier master en gestion de l'environnement qui était spécialisé sur le changement climatique. Et c'est là que je me suis pas mal intéressée aux problématiques liées à l'agriculture, à l'alimentation, avec le réchauffement climatique. Et du coup, j'ai poursuivi avec un deuxième master parce qu'il y a de plus en plus de masters qui apparaissent en France autour de l'alimentation. Et c'est ce qui m'a amenée du coup à chercher un premier poste pour ma vie professionnelle qui était autour des PAT, et j'en suis ravie.
Et donc la communauté d'agglomération, la CAPG, la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, vous avez dit qu'elle regroupait 23 communes, elle s'étend de où à où? Dans les grandes lignes.
Dans les grandes lignes. Donc c'est un territoire qui va donc de Colongues, Saint-Auban, on va dire, pour la limite au nord, donc qui est frontalière avec les Alpes de Haute-Provence, et qui descend jusqu'à la Roquette-sur-Siagne à peu près, donc qui comprend des communes comme Grasse, Saint-Césaire, voilà. Donc en fait, c'est un regroupement de communes qui est vraiment l'ouest des Alpes-Maritimes.
Et qui regroupe des communes à la fois des agglomérations, des grosses agglomérations comme Grasse, des moyennes et des villages
ruraux. Tout à fait, on a de vrais contrastes sur cette communauté d'agglomération avec tout le nord de Saint-Vallier, qui est plutôt une zone de moyenne montagne, le nord de Saint-Vallier de Thiers. Après, on a la ville de Grasse, qui concentre 50% de la population de la communauté d'agglomération. Et après, toutes les villes du moyen pays qui sont, on va dire, périurbaines.
Alors, on comprend la mise en commun de moyens, notamment de la ville vers les petites communes rurales. Est-ce que cette diversité n'est pas aussi un frein? Parce que tous les besoins ne sont pas les mêmes et les moyens ne sont pas les mêmes.
Je dirais au contraire, parce que en fait, on voit plutôt les choses sous l'angle de la complémentarité. Si on prend typiquement le sujet de l'agriculture et de l'alimentation, on peut avoir vraiment une complémentarité entre des territoires ruraux qui peuvent être producteurs, mais pas que, et des zones rurales, des zones urbaines, pardon, qui amènent aussi un bassin de consommation, entre guillemets. Mais après, ça, ce sont des, on va dire, un peu des, une façon binaire de présenter les choses, parce que, bien sûr, dans les faits, en fait, Grasse est aussi un territoire agricole. Et en fait, en tout cas, nous, on travaille vraiment sur la complémentarité parce qu'il y en a de nombreuses. Et notamment aussi sur la production. C'est même une chance. C'est-à-dire qu'en fait, on peut produire entre 6 mètres d'altitude et 1500 des choses très différentes. Donc, on a une très grande diversité de production.
Merci. Mais nous reviendrons sur la situation, effectivement, du Pays de Grasse, vos projets, vos actions. Et on souhaiterait évoquer la question de l'alimentation et de la précarité alimentaire aujourd'hui en France. Donc l'alimentation, on l'a évoqué lors de l'introduction, c'est un des droits de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais alors, effectivement, c'est essentiel de se nourrir. Il y a l'air, il y a l'eau, il y a la nourriture. Mais au-delà, bien se nourrir, ça crée, c'est autre chose que de manger, en fait. C'est des tas d'interdépendances. Comment vous définiriez ces besoins ? Parce qu'il y a effectivement une dimension économique, il y a une dimension liée à l'environnement. Il y a les aspects pratiques d'accès à la cuisine. Voilà, c'est quoi bien se nourrir et pourquoi est-ce aussi important ?
Bien se nourrir, ça recouvre plusieurs dimensions. Et en fait, l'idée de bien se nourrir, c'est pas simplement de remplir un ventre, donc d'avoir accès à l'alimentation, même si pour une part de la population, c'est vrai. Mais en fait, c'est plus que ça, c'est-à-dire que ne pas pouvoir bien se nourrir, ça a un impact sur la santé, ça a un impact sur la vie sociale et ça a un vrai impact sur sa capacité à faire vivre son identité et ses valeurs. Et nous, ce qu'on aime bien dire aussi, c'est que bien manger, c'est avant tout une histoire de plaisir et qu'on coupe les gens de la capacité à avoir du plaisir en fait, au quotidien. C'est une forme d'hédonisme, c'est bien plus en tout cas qu'une donnée biologique.
Oui, en fait, il y a les besoins et il y a effectivement, surtout dans notre pays, toute une connotation culturelle liée à la nourriture, mais dans d'autres pays aussi, qui est importante. Et donc, on parle aussi de sécurité alimentaire. Qu'est-ce que c'est ? Là, on parle effectivement du respect des personnes ou la sécurité sur les aliments. Comment vous définiriez ça ?
La sécurité alimentaire, c'est avoir accès à une nourriture en quantité suffisante, qui puisse être saine, nutritive, et qui permette à tous de satisfaire les besoins aussi bien énergétiques pour pouvoir vivre au quotidien, mais aussi selon les préférences alimentaires. Et quand on parle de précarité alimentaire, on fait référence aux difficultés économiques qu'on peut rencontrer, mais aussi à une multitude de facteurs de vulnérabilité qui peuvent venir en complémentaire et qui rendent difficile l'accès à une alimentation. Comme vous disiez, la dimension pratique, par exemple, le fait de ne pas avoir accès à une cuisine pour pouvoir cuisiner des aliments bruts, ça rend difficile l'accès à une alimentation, comme par exemple les personnes sans domicile fixe à qui ils n'ont pas accès donc à ce type d'équipement. Ça peut être aussi, comme le disait Sandra, le fait d'être éloigné de tout type de commerce ou de ne pas être véhiculé. Ça rend difficile l'accès à une alimentation diversifiée et en quantité suffisante. Il y a aussi l'aspect socio-culturel. Le fait d'être isolé socialement ou d'avoir des habitudes culturelles peuvent rendre difficile l'accès à l'alimentation.
C'est vrai que le concept de sécurité alimentaire renvoie peut-être plutôt à quelque chose qui se pense au niveau national ou international aujourd'hui, parce qu'on est dans un marché mondialisé, et qui est plutôt de l'ordre de l'idée d'avoir une continuité dans les productions, en fait, et qui irrigue les populations. Nous, au niveau local, on a quand même plus difficilement la main sur les filières, et on préfère du coup s'attacher, on trouve ça aussi intéressant, s'attacher au concept de démocratie alimentaire. Parce que, si vous voulez, depuis la Seconde Guerre mondiale, les produits alimentaires sont traités au même titre que d'autres produits de consommation. Et par conséquent, c'est le marché qui régule la production. Le citoyen, lui, par ce biais, il a le statut de consommateur qui lui permet donc d'être inclus socialement. si les personnes, et les personnes, quand elles n'arrivent pas à consommer, sont considérées comme pauvres. Mais à l'intérieur de ce statut de consommateur, bon, tout le monde est libre d'acheter ce qu'il veut en fonction de ce que le marché lui offre, en théorie. Mais en réalité, le consommateur n'a la possibilité d'agir sur le système alimentaire que par l'acte d'achat. C'est sa seule possibilité. Alors que le concept de démocratie alimentaire, en réalité, c'est la revendication des citoyens à pouvoir agir sur la production et l'acte de production et la reconnexion à l'agriculture. Et donc, pour que la démocratie alimentaire s'incarne dans la vie des citoyens, il est nécessaire de s'appuyer sur une compréhension du système alimentaire, de ce qui nous est proposé et qui est aujourd'hui segmenté. Donc, je donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, vous avez le ministère de l'Agriculture d'un côté, le ministère de la Santé de l'autre. Et sauf que si on parle alimentation, en fait, il faut parler de toutes les dimensions de l'alimentation, c'est-à-dire de l'accessibilité sociale, de l'impact sur la santé, de l'impact sur l'environnement, de l'impact sur la santé mentale des agriculteurs, d'ailleurs. Voilà, c'est cette vision globale. Et la question de la démocratie alimentaire, elle pose à la fois la question de la justice sociale, donc l'accès, la participation, le pouvoir d'agir, et celle de la citoyenneté.
Donc, en fait, vos actions localement, dont on détaillera la liste un peu plus tard, elles s'inscrivent quand même dans une politique générale. Parce qu'effectivement, ça demande une vision globale au niveau d'un pays.
Alors, elle s'inscrit en fait dans la volonté de comprendre comment fonctionne le système alimentaire, déjà. Et ça, c'est très important. Qui produit quoi, comment et où ? Je veux dire, on sort du Salon international de l'agriculture, donc à Paris. Je serais curieuse de savoir qui sait exactement s'il achète... français ou pas, si ça vient de loin ou pas, comment ça a été produit, dans quelles conditions. Donc en fait, il y a une nécessaire compréhension du système alimentaire pour que en fait, le citoyen puisse faire des choix et appuyer les élus dans la réorientation de ce système alimentaire.
Mais il y a toute une réglementation, par exemple sur l'affichage. L'Europe a reculé par rapport à la mise en place d'affichage sur les Nutri-Score sur certains produits dans certains pays, alors qu'on le fait déjà en France. Donc ça, ce n'est pas au niveau d'une commune ou d'une communauté d'agglo que ça peut être fait. C'est vraiment au niveau politique général.
Alors, il y a quand même la possibilité pour les citoyens de faire des choses au niveau local. On a beaucoup d'exemples, les AMAP en sont une, on les connaît, mais aujourd'hui, il y a des travaux...
Alors, les AMAP, on reprécise, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne.
Qui mettent directement en lien les producteurs et les consommateurs.
Qui s'appellent consomme-acteurs.
Voilà. Mais on a aussi, on en parlera tout à l'heure, je suppose, les caisses communes de l'alimentation et tout ce travail qui émerge autour de la sécurité sociale de l'alimentation.
Je voudrais revenir sur un point qu'on ne va peut-être pas aborder dans cette émission, mais la sécurité alimentaire, elle fait évoquer aussi, elle m'évoque les crises. Est-ce qu'il y a un plan de maintien de l'alimentation, de l'acheminement de l'alimentation en cas de crise grave, puisque vous expliquez par exemple que les Alpes-Maritimes ne produisent qu'un pour cent de ce qu'ils consomment. Est-ce que c'est au niveau local ou là c'est au niveau national où on prévoit des mécanismes où l'alimentation arrive ?
Alors c'est un vrai sujet. On a Stéphane Linou au niveau national qui travaille beaucoup sur le sujet.
C'est un député du Sud-Ouest.
C'est même. Ça, exactement. Et qui a travaillé avec certaines communes pour intégrer la question de la rupture de l'alimentation dans les plans de sauvegarde communaux, dans lequel en fait ce sont des plans qui permettent de réagir face à des crises, par exemple des catastrophes naturelles, et donc pour intégrer la possibilité de la rupture d'approvisionnement alimentaire. Nous, c'est des questions sur lesquelles on va travailler dans le cadre de ces 5 ans-là du PAT.
D'accord, merci. Alors, je voulais revenir un petit peu, est-ce que vous avez des données sur ce qui se fait, sur ce qui existe en France ? On a des rapports d'associations, comme le rapport du Secours catholique, le rapport du Secours populaire. On voit aussi beaucoup d'interventions des Restos du Cœur qui sont vraiment en lien avec ces personnes. La première demande des ménages en situation de pauvreté, c'est l'aide alimentaire. Il y a 46% des demandes pour le Secours catholique qui arrivent en demande alimentaire. Est-ce que vous avez une vision globale de la précarité en France, de la précarité alimentaire en France ?
Un petit peu comme vous le disiez en introduction, en France en 2021, 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Selon le dernier rapport du secours catholique publié en 2024, c'est 8 millions de Français qui sont en insécurité alimentaire. Et parmi eux, on estime 2 à 3 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire d'urgence, bien que ce soit difficile aujourd'hui d'évaluer et de quantifier le nombre de personnes qui auraient et qui ont besoin de l'aide alimentaire, puisqu'on se base souvent sur les chiffres des dispositifs d'aide alimentaire, comme les Restos du Cœur, parmi les personnes qui vont vers ces dispositifs. Mais il y a aussi toute la part de personnes invisibles qu'on n'a pas forcément identifiées et qui pourtant auraient besoin de cette aide-là.
Oui, parce qu'il y a des personnes qui ne bénéficient pas de l'aide alimentaire parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent en bénéficier. C'est un accès aux droits ou aux possibilités.
Il y a l'accès aux droits et puis il y a aussi un grand facteur qui est quand même la honte aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'accèdent pas à l'aide alimentaire, au panier, parce que en fait, pour eux, c'est compliqué.
Oui.
Donc souvent, quand on y va, c'est vraiment qu'on n'a vraiment plus le choix.
Donc, sur cette aide alimentaire, le système actuel, comment fonctionne-t-il ? En quoi consiste-t-il ?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre en introduction, c'est qu'on est notre système d'aide alimentaire d'urgence, aujourd'hui, est l'héritier d'une situation des années 80. Dans les années 70-80, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées en même temps. D'une part, il y a eu plusieurs crises économiques qui ont fait considérablement augmenter la pauvreté en France. Et donc, il y a eu plusieurs mouvements. On connaît bien sûr Coluche, avec la création des Restos du Cœur. Mais il y a eu aussi la création des premières banques alimentaires, ça doit être 84-85, qui, en fait, vont essayer de pallier à cette augmentation de la pauvreté et aux difficultés de se nourrir des ménages. Et parallèlement à ça, au sortir de la guerre, en fait, l'État va vraiment encourager la production agricole. Et les entreprises agroalimentaires vont venir conforter cette production-là. Sauf que, arrivé dans les années 70-80, on va arriver dans une autre phase qui est celle de la surproduction. Et la PAC arrive à ce moment-là pour en fait empêcher que les cours en fait fassent totalement chuter le prix de l'alimentation et va instaurer des quotas. Les quotas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va demander aux agriculteurs de produire qu'une certaine quantité d'alimentation. Au-delà, c'était jeté. Il y a le cas du lait, souvent, on s'en souvient. Voilà. Et donc, on arrive avec cette conjonction de deux situations où il y a d'un côté une augmentation de la pauvreté, de l'autre, des productions alimentaires qui sont jetées.
Du gaspillage.
Et donc, le mouvement qu'il y a eu d'un côté de Coluche, mais aussi de toutes les autres associations qu'on connaît, hein, Secours Populaire, Secours Catholique, etc., qui vont dire « ça suffit, il faut qu'on fasse quelque chose pour en fait, transférer ces surplus de production » vers l'aide alimentaire d'urgence. Et donc, finalement, ce système d'aide alimentaire va s'institutionnaliser, va se structurer. Donc, aujourd'hui, on a un réseau d'aide alimentaire qui existe partout sur le territoire national. Donc, ce sont des banques alimentaires qui sont départementales et qui, en fait, captent les surproductions faites, d'une part, au niveau local, mais aussi au niveau européen. Parce que l'État aussi, parallèlement, a fait tout un travail pour, au niveau de l'Europe, capter les surproductions européennes. Donc aujourd'hui, les banques alimentaires, elles ont un fonds européen, elles ont un fonds national et elles ont la ramasse...
Les contributions volontaires des citoyens.
C'est les ramasses auprès de la grande et moyenne surface
oui.
qui sont très importantes.
Mais ils font aussi des collectes.
Et aussi des collectes, voilà, c'est ça.
Oui, parce que maintenant, les grandes surfaces ne peuvent plus détruire et détériorer surtout les produits en surplus.
Exactement.
Ça, c'est un progrès de la législation.
Tout à fait.
Et donc, du coup, ces limites, parce qu'on s'aperçoit quand même que ça repose beaucoup sur l'associatif, sur la bonne volonté des gens, quelles sont les limites de cette aide alimentaire ? Quelles sont les limites ?
Alors, en fait, les limites aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui, on était dans un nouveau tournant. C'est-à-dire qu'il y a eu un tournant dans les années 80. Aujourd'hui, on en connaît un nouveau parce que, d'une part, on n'est plus dans une période de surproduction. Les entreprises agroalimentaires, à l'échelle européenne, ont réduit la surproduction pour des raisons aussi simples que l'augmentation des coûts de l'énergie. Et puis, par ailleurs aussi, il y a eu toutes les lois contre le gaspillage alimentaire qui font qu'aujourd'hui, les grandes et moyennes surfaces peuvent vendre plus tardivement avant d'arriver à la date de péremption avec des promotions. Sauf que ce qu'ils font aujourd'hui, c'était ce qui allait avant aux banques alimentaires. Et donc, les banques alimentaires se retrouvent comme dans un goulot d'étranglement avec un approvisionnement qui se réduit de tous les côtés.
Sauf qu'on peut considérer que les personnes qui achètent ces produits en ont besoin et ne vont pas ensuite demander une aide à la banque alimentaire.
Je ne suis pas sûre que ce soit des vases communicants. Mais en fait, après, il n'y a pas de jugement sur ce système. C'est-à-dire que c'est comme ça que s'établissent les choses aujourd'hui. Et donc, on est d'un côté dans une réduction de l'approvisionnement, ce qui fait qu'il y a une énorme tension sur tout le système d'aide alimentaire d'urgence. En plus, l'autre problème, c'est qu'à la base, tel que ça a été envisagé, notamment par Coluche, c'était pas censé durer aussi longtemps. À la base, c'était une aide qui n'existait que l'hiver. C'était une aide qui n'avait pas lieu l'été parce que c'était pour compenser les charges de chauffage pour des ménages qui étaient importantes. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un système qui dure toute l'année et qui est très loin de s'arrêter parce que l'augmentation des demandes continue et la crise alimentaire a bien montré que, le travail fait par toutes ces associations est indispensable et absolument remarquable. Pour autant, on voit bien que le système, en fait, est quand même en tension. Et donc il n'est pas satisfaisant à différents niveaux, donc au niveau de la question de l'approvisionnement, c'est quand même questionnable de permettre aux gens qui n'ont pas la possibilité de se nourrir en utilisant le gaspillage alimentaire, ça peut se questionner. Et puis ça ne permet pas aux gens de faire des choix en fait alimentaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de choisir leur alimentation, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre ce qu'il y a et puis voilà. Donc aujourd'hui, le tournant qu'on est en train de voir, c'est comment on pourrait combiner une alimentation qui permette aux gens de choisir leur alimentation, une alimentation qui soit saine, comment ils peuvent être autonomes et participer au système plutôt que d'être simplement receveurs.
Merci beaucoup. Et puis, nous allons poursuivre bien sûr cette émission avec la partie locale, mais auparavant, une pause musicale avec la chanson des restos « Génération enfoirée ».
N'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage, si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nous nous peut-être grossirons la liste.
Aujourd'hui, on a plus.
Bien, nous poursuivons le thème de notre émission « Parlons des droits humains », consacrée ce soir au thème de la précarité alimentaire dans le pays de Grasse, avec Eva Parus et Sandra Troupena, du projet alimentaire territorial du pays de Grasse. Donc, en première partie, on a évoqué déjà votre cheminement, ce que vous faites, vos missions. On est rentré un peu sur des considérations globales au niveau français, hein, sur ce qu'est la sécurité alimentaire, la précarité alimentaire, tout ce qui a été mis en place depuis une quarantaine d'années maintenant et qui demande à être changé, modifié en fonction de l'évolution de l'économie et de la situation nationale et internationale. Donc j'aimerais qu'on focalise maintenant un peu plus sur ce que vous faites au niveau du pays de Grasse. Donc est-ce qu'on pourrait rapidement redéfinir le nombre de communes que rassemble la communauté d'agglomération du pays grassois ? Ça fait combien de personnes, combien de communes?
Alors, on est sur 23 communes et ce territoire compte en tout, du coup, entre un peu plus de 100 500 habitants.
100 000 ?
Ouais, 100 500. Et c'est un territoire assez contrasté parce qu'on a 80% du territoire, donc, comme le disait Sandra, qui est situé au nord et qui est une zone rurale de moyenne montagne, avec là des problématiques de mobilité et de précarité. Et les 20% du territoire au sud, on est sur une zone plutôt urbaine et périurbaine qui se divise entre la ville de Grasse, où là on regroupe 50% de la totalité de la population de la CAPG, de l'agglomération du Pays de Grasse, avec deux quartiers prioritaires de la ville et des petites villes et villages périurbains dans le sud du territoire. Et après, pour faire peut-être une mise en contexte socio-économique du territoire, on est reconnu pour avoir une industrie des arômes et parfums particulièrement dynamique, 50% du chiffre d'affaires national et 10% du marché mondial. Et à côté de ça, un taux de chômage de 10% avec une forte progression de ce taux de chômage chez les seniors et une paupérisation croissante de la ville de Grasse avec plus de la moitié des ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Et sur l'ensemble de la CAPG, finalement, la communauté d'agglomération, vous avez identifié combien de personnes ou combien de ménages en précarité alimentaire ?
C'est assez difficile de donner un nombre de personnes, comme je le disais un petit peu précédemment sur le fait de quantifier. Puis il y a plusieurs facteurs qui peuvent augmenter le risque de précarité alimentaire. Et c'est pour ça que depuis novembre 2024, une des premières missions avec l'arrivée de mon poste, c'était donc de réaliser une étude des publics en précarité alimentaire pour justement voir et pouvoir identifier tous ces publics sur notre territoire qui peuvent être en difficulté et en précarité. Donc, on a commencé la première phase. On vient de finaliser la première phase de l'étude qui nous a permis de faire un premier état des lieux de la précarité économique, puisqu'on, comme on le disait précédemment, la dimension économique, c'est le premier facteur de précarité. Et donc, le bureau d'études nous a permis d'identifier des typologies de publics à partir de lectures scientifiques pouvant être en situation de précarité.
Alors, typologie, donc en fonction de quels critères ?
Eh bien justement, on a défini différents indicateurs pour pouvoir identifier ces typologies de publics comme les familles monoparentales, les chômeurs, les ménages pauvres, les seniors, les jeunes en rupture familiale, les personnes isolées géographiquement, les personnes mal logées, les habitants en zone rurale, les migrants et les réfugiés. Et en fait, c'est grâce aux partenaires et aux acteurs sur le territoire qu'on a essayé d'aller chercher des indicateurs pouvant nous permettre d'identifier ces typologies de public.
Alors justement, comment vous avez fonctionné ou comment ce bureau d'études a fonctionné sur le terrain pour arriver à faire cette étude globale ?
Alors, on n'en est pas encore au niveau du terrain. La première phase, c'était juste des chiffres. En fait, nous, on avait besoin de savoir des chiffres parce qu'on avait besoin d'avoir une vision globale, de se dire, ah ben, finalement, peut-être il y a 50%, je dis n'importe quoi, de familles monoparentales qui sont en difficulté et après, ce sont des publics plus disparates. Bon, ce n'est pas le cas. Hein, mais... Donc, on avait juste besoin de chiffres. Donc ça, on l'a déjà. C'est-à-dire que par zone du territoire, on sait qui sont les publics qui semblent vulnérables parce que c'est pas parce qu'on est habitant d'une zone rurale qu'on est forcément en précarité. Hein. Je veux dire, ça peut aussi aller très bien. Hein. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir ces chiffres un peu par zone. Et là, le travail du bureau d'études, maintenant, ça va être d'aller à la rencontre des publics qu'on a identifiés.
Donc, ça veut dire qu'avant d'aller à la rencontre de ces publics, vous avez travaillé avec des acteurs sociaux qui vous ont fait remonter ces chiffres, Exactement. Ces données, et définir un contexte finalement qui vous a donné une image de ce qu'est la situation dans la CAPG, quoi.
Voilà, tout à fait. En fait, c'est l'ensemble de nos partenaires qui, en fait, nous ont fait remonter des données. Donc là, c'est un travail purement statistique, hein, mais on veut sortir ce travail statistique. Hein, mais c'est la CAF, la MSA, les CCAS. C'était vraiment... En fait, on avait juste besoin d'avoir un peu cette photo à partir des données. Mais en même temps, les données, on a besoin de les critiquer et on a besoin de les rendre humaines. Donc, c'est pour ça qu'on a une deuxième phase qui va consister à aller faire des ateliers, des rencontres un peu partout sur le territoire avec ces publics pour en fait avoir une représentation sensible de ce que représente la précarité alimentaire parce que, encore une fois, tout le monde ne va pas à l'aide alimentaire d'urgence. On estime, je ne sais plus, je crois, on se dit que c'est à peu près 40% des personnes en précarité alimentaire qui vont à l'aide alimentaire d'urgence. Donc ça veut dire qu'il y a tout un panel de publics qui n'y va pas. Et donc, la question, quand on va aller voir ces publics, c'est d'essayer de comprendre, en fait, déjà, quelle est leur situation. Parce que, en fait, peut-être qu'il ne suffit pas de donner un colis d'aide alimentaire pour résoudre la question de la précarité alimentaire. On prend souvent la question des mineurs isolés. En fait, dans le cas des mineurs isolés, par exemple, il peut y avoir une rupture de transmission familiale, ce qui fait que même si on donne des paniers, on ne sait pas cuisiner.
Alors, donc, effectivement, vous anticipez un peu sur la suite. Comment vous allez procéder maintenant, d'un point de vue pratique? Maintenant que vous avez cette vision globale, comment vous allez faire l'étape suivante, l'étape 2, donc, d'un point de vue très pratique?
Alors, l'étape 2, donc, c'est des enquêtes de terrain. Donc, en fait, on a, au sein de ce bureau d'études, il y a une sociologue qui va venir avec nous. Donc, on a organisé des événements un peu partout sur le territoire. Des événements qui sont conviviaux. L'idée, c'est de ne pas du tout stigmatiser. En fait, nous, on considère que les personnes qui vivent ces situations sont des sachants et qu'en fait, il n'y a que eux qui peuvent dire et orienter, entre guillemets, les actions qui viendront ensuite.
Là, je vous arrête un peu. Ce sont des sachants. Pour être sachant, il faut avoir eu l'information, il faut avoir la connaissance de ce dont on a besoin. D'accord, effectivement, ça, chacun est capable de le dire. Ensuite, on revient à la qualité de la nourriture, de l'alimentation. Est-ce que tout le monde est informé sur la qualité globale de ce qu'ils nous ont proposé, alors dans les supermarchés, dans les AMAP, etc., etc. Ça, c'est, et ça ne rejoint pas uniquement ceux qui sont dans la précarité alimentaire, ça rejoint l'ensemble de la population française. Très régulièrement sur les médias, on a des reportages sur la malbouffe que l'on a en France. Et ça concerne, comme Martine le rappelait tout à l'heure, tout le monde. Il faut être informé.
Alors, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que, comme on le disait, les situations de précarité alimentaire sont diverses. On peut avoir des gens en précarité alimentaire qui sont très attentifs à leur alimentation et qui cuisinent très bien. Et on peut avoir dans la précarité alimentaire des gens qui n'ont pas eu de transmission intrafamiliale autour de l'alimentation. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a une rupture de transmission sur l'alimentation, une rupture culturelle. En fait, on va dire dans les années 70, en fait, ça a été le parallèle avec l'arrivée sur le marché de produits de plats cuisinés, qui ont aussi eu leur vertu, hein, parce que c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été aussi le fait de sortir la femme de sa sphère purement ménagère. Enfin, voilà, on est quand même dans des situations qui sont protéiformes. Et donc, nous, quand on dit qu'ils sont des sachants, je vais ressortir une citation qui est... Alors, je vais pas l'attribuer. Il me semble que c'est Mandela ou Gandhi, je ne sais pas, qui dit... Tout ce qui est fait pour nous, mais sans nous, est fait contre nous. Donc, quand on dit que c'est des sachants, c'est qu'eux ont la capacité de nous dire si les dispositifs qui sont aujourd'hui mis en place sont pertinents ou ne le sont pas. Une chose est sûre, c'est que comme seulement 40% des personnes en précarité alimentaire vont à l'aide alimentaire d'urgence, ça veut dire qu'il y a forcément des problèmes, en fait, dans la réponse qu'on apporte à ces gens-là. Et donc, en fait, c'est ce qu'on veut vérifier. C'est-à-dire qu'on veut aller... discuter avec eux pour voir, par exemple, pourquoi est-ce qu'ils ne recourent pas à l'aide alimentaire d'urgence pourquoi est-ce qu'ils ne cuisinent pas. Je vais prendre un autre exemple très concret. Une personne âgée en zone rurale qui est isolée, en fait, qui n'a pas de famille autour d'elle. Il est possible qu'elle ait une retraite qui suffise pour acheter de l'alimentation. Mais l'alimentation, quand on est seul, est-ce qu'on a envie de cuisiner ? En fait, et donc il y a des personnes qui se dénutrissent, on va dire, non pas pour une question économique, mais parce qu'en fait, elles sont seules et isolées. Donc en fait, c'est pour ça que notre façon d'agir sur la précarité alimentaire, ça va être très fin. On est dans une démarche de l'aller vers, on va vers les gens, et on va essayer de tisser des dispositifs qui seront adaptés en fait à chaque situation.
Alors comment vous allez faire justement en fonction de ce que vous saurez par l'intermédiaire effectivement des acteurs sociaux? Qu'est-ce que vous allez proposer? Quelle pédagogie vous allez utiliser?
Dans cette optique-là de l'aller vers, c'est aussi de pouvoir après co-construire et imaginer des actions qui répondent aux besoins des personnes avec qui on aura pu échanger, puisqu'on ne peut pas faire sans eux et qu'on veut faire avec eux dans cette démarche-là de démocratie alimentaire et de cette méthodologie de l'aller vers qu'on essaye d'avoir depuis le début, comme par exemple dans les enquêtes de terrain. On n'a pas pour objectif d'aller que vers les dispositifs d'aide alimentaire ou les dispositifs sociaux, mais d'aller plus globalement vers d'autres structures et d'autres associations et d'autres partenaires qu'on a sur notre territoire pour justement aller rencontrer ces personnes-là qui n'ont pas recours à l'aide alimentaire, comprendre pourquoi, et justement voir pour eux quelle serait... Si dans un idéal, des fois, on se demande la solution idéale, et pour pouvoir après se coordonner avec eux et en fonction des spécificités de notre territoire.
On peut donner des exemples concrets, si vous voulez, justement, pour illustrer tout ça. Parmi les dispositifs qu'on peut imaginer, donc il y a Mansartou qui commence à travailler sur le sujet, qui est la commande groupée. Je suppose, enfin, peut-être vous connaissez le réseau VRAC, alors qui n'est pas le réseau de zéro déchet. Hein. Alors je ne me souviens plus de l'acronyme, c'est vers un réseau d'achat commun, je crois. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, ce sont donc une mixité de personnes. Il y a des personnes en précarité alimentaire, il y a des personnes qui ne le sont pas, qui en fait font de la commande en commun. Mais du coup, c'est eux qui choisissent les aliments qu'ils souhaitent avoir. Alors bien sûr, dans un catalogue de produits sains, et qui en fait, grâce à la commande groupée, ont des prix d'achat beaucoup plus bas. Et grâce à la mixité, il peut y avoir en fait des personnes qui vont acheter au prix normal, de façon à financer les personnes qui vont acheter à un prix plus bas. Et donc, dans cette constitution de la commande groupée, ça permet aux personnes aussi de voir au prix de qui on achète quoi. Pourquoi on achète tel type de denrées ? Et en fait, c'est dans l'action que l'apprentissage se fait. En fait, c'est en faisant. Et en fait, c'est tout la différence entre être bénéficiaire, c'est-à-dire on vient, on est passif, et le fait d'être acteur. Ce qu'on vise, en fait, nous, à travers des actions comme celle-ci, mais il pourrait y en avoir d'autres, c'est l'incapacitation, en fait. C'est-à-dire comment on rend les personnes en capacité d'eux. Donc, on prend la question des mineurs isolés. Il y a un vrai travail à faire pour la plupart d'entre eux qui sont en partie, et pas tous, mais des enfants de l'ère industrielle, et donc de la barre chocolatée, des sodas, etc. D'un côté, on sait très bien que l'alimentation sucrée, c'est aussi une forme d'antidépresseur, et donc c'est important pour ces publics-là. Et d'un autre côté, c'est pas bon pour la santé. Donc, c'est comment est-ce qu'on trouve des façons de les amener à apprécier une nourriture progressivement qui est un peu plus saine.
Et alors, justement, dans ce cadre-là, vous parliez tout à l'heure d'ateliers.
Oui.
Qu'est-ce que vous allez proposer ?
Bon, on est encore au début de notre démarche. Donc, c'est difficile pour nous d'aller plus vite que la rencontre avec les publics parce qu'en fait, ça va aussi dépendre de ce qu'ils nous racontent. Mais nous, on a des partenaires associatifs... par exemple, comme les apprentis d'Auteuil, qui sont à Grasse et qui ont l'habitude de ces publics-là et qui ont des cuisines sur place et qui ont beaucoup de dispositifs sur place, la possibilité de monter des ateliers avec eux autour de l'alimentation. Mais voilà, tout ça va se construire progressivement dans le temps. Et puis, si on prend un exemple du haut pays, en fait, si la question qui arrive sur la table, c'est celle de l'isolement, en fait, comme facteur de précarité alimentaire, là-dessus, on a beaucoup de partenaires avec qui travailler. On a un espace de vie sociale itinérant qui est porté par Arpège. Avec la communauté d'agglomération, on a des agents de convivialité qui vont en fait qui sont à disposition des personnes isolées sur l'OEPI pour les amener à leurs rendez-vous médicaux, etc. On pourrait très bien imaginer des actions qui permettent de rompre l'isolement sur le temps du repas. On a des associations comme les Cristaux du Cœur qui travaillent aussi sur l'OEPI. Donc en fait, c'est comme si on était en train d'essayer de faire monter une mayonnaise avec tous ces acteurs et avec les publics pour trouver des solutions adaptées.
Donc vous avez déjà effectivement des actions qui sont déjà en cours, que vous êtes en train de monter, d'autres que vous avez peut-être déjà démarrées. Je crois qu'il y a déjà un certain nombre d'actions autour des paniers solidaires qui existent déjà. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Par l'association JVS notamment, qu'on accompagne, qui mettent en place c'est un chantier d'insertion.
Alors JVS.
Jardin Valeurs Solidaires.
Basé à Montsartou,
merci. Effectivement. Et donc, par le biais de ce chantier d'insertion, qui a pour principale activité la production maraîchère et de l'élevage qui fait des poules, il me semble aussi, et des œufs, propose donc des paniers solidaires. Ils font aussi des marchés solidaires justement pour rendre accessibles ces produits à des ménages qui sont beaucoup plus modestes et avec des moyens beaucoup plus faibles pour rendre accessibles les fruits et les légumes. Ils font aussi des animations sur site sur l'alimentation durable et on les accompagne notamment pour trouver justement des moyens de financement pour pouvoir continuer ces actions qui nous semblent essentielles sur le territoire et à développer plus largement.
Alors, je vais essayer d'aller un peu plus loin par rapport à cette réflexion. Pour rendre les gens acteurs, il y a également la possibilité de développer les jardins partagés. Et sur Grasse, c'est quelque chose qui a commencé à bien se développer et qui est un moyen, effectivement, non seulement de produire de la nourriture locale, mais également d'impliquer les gens qui seront les récipiendaires de ces aliments. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots ?
Ça fait partie des projets qu'on commence à accompagner en parallèle du diagnostic, notamment avec un projet qu'on nomme Mon quartier comestible, où l'objectif c'est d'implanter des jardins partagés dans le centre historique de Grasse, qui est un quartier prioritaire de la ville, et donc de travailler, les porteurs de projets ont pour objectif de travailler avec au départ les écoles de la ville pour justement partir des enfants et sensibiliser le grand public sur le bien manger, l'accès à des fruits et légumes dans leur quartier. Et c'est un projet qu'on mène avec eux et qu'on les accompagne depuis le début, aussi bien pour la recherche de partenaires que la visite des parcelles pour trouver le lieu qui serait le plus adéquat pour rendre accessible ce jardin à tous et tout le temps pour que tout le monde puisse se l'approprier.
Et avec la ville de Grasse, du coup.
Bien sûr, la ville de Grasse.
Un partenaire important, même central, parce que c'est vrai que l'accès au foncier, on le sait, dans les villes est très complexe.
Ça, c'est un aspect que je voulais éventuellement évoquer avec vous, parce que pour remobiliser de l'espace rural et reproduire sur place, vous aviez évoqué tout à l'heure le fait qu'il n'y avait que 1% de l'alimentation qui était produite sur place. Pouvoir produire davantage, ça veut dire reconquérir des terrains. Et en termes de foncier, il y a vraiment un énorme travail à faire.
Oui, tout à fait. C'est un enjeu que les élus ont vraiment pris à bras le corps. Dans le cadre du projet alimentaire territorial, nous avons travaillé sur un projet qui s'appelle l'Agence du foncier agricole et de l'installation. Donc, l'idée, en fait, c'est de fournir des services à nos communes membres, puisque ce sont les communes qui gardent la maîtrise de leur PLU, plan local d'urbanisme, pour les aider, en fait, à remobiliser le foncier agricole. En fait, là, c'est un travail qui est un peu technique, mais l'idée, c'est d'aller un peu au-delà du travail de simple identification qu'on fait dans les PLU pour vraiment, en fait, voir quelles sont les raisons qui font que le foncier agricole n'est pas mobilisé. Donc, par exemple, on sait qu'il peut y avoir de la rétention foncière, par exemple, des personnes qui ont du foncier agricole, mais qui se disent peut-être qu'un jour, ça deviendra constructible et qui espèrent, du coup, pouvoir transmettre ça à leurs enfants. Donc, sauf qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'avec les lois qui viennent de sortir, le foncier agricole ne deviendra plus constructible. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller vers les propriétaires de foncier pour les accompagner et leur faire comprendre en fait que la vocation ne changera pas et qu'ils ont tout intérêt à le louer à des agriculteurs.
Eh bien, je vous remercie pour toutes ces informations. Nous allons prendre le temps d'une pause musicale avant de reprendre pour la conclusion de cette émission.
Émission Parlons des droits humains, consacrée ce soir au thème « La précarité alimentaire dans le Pays de Grâce » avec Eva Parus et Sandra Troupna du projet alimentaire territorial du Pays de Grâce. Et je vais vous demander dans quelques mots en conclusion de cette émission.
Eh bien, dans le cadre du projet alimentaire territorial plus globalement, mais dans le cadre spécifiquement de cette mission de lutte contre la précarité alimentaire, nous, on est très preneurs de participation, de bonne volonté. C'est vrai que dans le cadre de la restitution finale de l'étude qui aura lieu en juin et qui va montrer un peu justement ce que toutes les personnes ont dit, on a tout à fait la possibilité d'ouvrir ces restitutions à toute association, à tout grand public qui est intéressé. D'ailleurs, tous les travaux du PAT sont ouverts à toute personne intéressée. Donc, n'hésitez pas à vous manifester auprès de la communauté d'agglomération si vous souhaitez participer à ces travaux ou si vous avez des idées.
Merci, c'est une belle conclusion. Et dernier point, je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Donc, nos éditeurs pourront réécouter cette émission en la téléchargeant sur le site d'Agora Côte d'Azur. Elle sera par ailleurs rediffusée lundi 7 avril à 21h sur Agora. Et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission Parlons des droits humains qui aura lieu le lundi 22 avril. À bientôt, bonne soirée à vous.